RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel L'Indonésie en couleur et le magazine musical. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Le président de la République d'Indonésie assistera au 33e sommet de l'ASEAN à Singapour. L'Indonésie se concentre sur l'Indo-Pacifique au sommet de l'ASEAN. Voici le bulletin complet. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, assistera à la session plénière du 33e sommet de l'ASEAN de la 13 novembre à Sun City à Singapour. Il sera accompagné de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Renaud L.P. Marsudi, le directeur de la coopération extérieure de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Benicia Han, a déclaré aux médias à Jakarta jeudi que le président Joko Widodo exposerait les points de vue de l'Indonésie au cours de la session comme crise humanitaire dans la région de Rakhine. Le 13 novembre, c'est une séance plénière. Le président exposerait l'importance de l'ASEAN en tant que famille, en particulier pour faire face à la crise dans la région. Deuxièmement, l'ASEAN aidera toujours le Myanmar à résoudre la crise humanitaire dans l'état de Rakhine, en ce qui concerne également le concept Indo-Pacifique. Pour le sommet, cette fois, il y a environ 7 résultats qui seront ratifiés. Selon Benicia Han, les 7 résultats qui seront produits incluent le cadre de ville intelligente proposé par Singapour, la déclaration de l'ASEAN pour soutenir l'emploi inclusif et égal, une déclaration commune sur le changement climatique et une déclaration sur l'orientation de l'assistant consulaire. Pendant ce temps, le 14 novembre, une réunion de l'ASEAN avec ses pays partenaires aura lieu, à savoir les réunions de l'ASEAN, l'Australie, l'ASEAN-Chine, l'ASEAN, la Russie et l'ASEAN, le Japon. Pour le 15 novembre, les réunions de l'ASEAN, les États-Unis et l'ASEAN plus 3 se tiendront ainsi que le sommet de l'Asie de l'Est. Lors de la réunion entre l'ASEAN et la Russie, l'Indonésie agira en tant que coordinateur et le président Joko Widodo présentera la déclaration commune de l'ASEAN contenant les points de vue des pays de l'ASEAN vis-à-vis de la Russie. L'Indonésie abordera plusieurs questions importantes, à savoir la question Indo-Pacifique au sommet de l'ASEAN et à l'autre sommet à Singapour à la mi-novembre. Comme l'a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après la réunion restreinte sur la préparation de la visite de la travée du président Joko Widodo au sommet de l'ASEAN à Singapour et au sommet de l'APEC en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au bureau de la présidence jeudi à Jakarta. En outre, Retno Marsudi a expliqué que l'Indonésie avait également un intérêt dans le partenariat économique global régional afin de finaliser le concept de coopération économique entendu entre les pays membres.
Mempresentasikan konsep mengenai masalah Indo-Pasifik. Kalau kita lihat, ini merupakan
présenter des concepts sur les questions Indo-Pacifique. Si nous voyons, c'est un point où le président présentera l'Indo-Pacifique à l'EAS depuis au moins un an et demi. Nous avons mené des consultations intensives avec le pays membre de l'ASEAN et ses partenaires. Ensuite, c'est un voyage de 2014 à l'époque ou à l'EAS. Le président a également présenté sur notre fulcrum maritime. Cela a été mentionné sur la question Indo-Pacifique et c'est là que le président présente le concept du problème Indo-Pacifique. Le sommet de l'ASEAN se tiendra du 13 au 15 novembre 2018, tandis que le sommet de l'APEC se tiendra en Papouasie-Nouvelle-Guinée du 16 au 18 novembre 2018. En mars du sommet, une réunion entre l'ASEAN avec les pays amis de l'ASEAN, entre autres le Japon, la Chine et la Russie, en particulier pour la réunion entre l'ASEAN avec la Russie. L'Indonésie va agir comme coordinateur de la réunion et discutera de la coopération entre l'ASEAN et la Russie. Les États-Unis sont déterminés à renforcer leur coopération avec le partenaire stratégique de l'Indo-Pacifique, à savoir l'Indonésie, en échange de technologies de défense. Heather Faryava, l'ambassadrice adjointe des États-Unis en Indonésie, a déclaré jeudi qu'elle était prête à échanger les technologies offertes par les États-Unis et pourrait être utile à l'Indonésie. Les États-Unis et l'Indonésie ont de solides partenariats en matière de défense. On dit que nous sommes très fiers du fait que l'Amérique soit l'un des principaux partenaires militaires de l'Indonésie. Les États-Unis et l'Indonésie ont collaboré dans le domaine de l'aviation, de la défense aérienne, de la sécurité maritime, de l'aide humanitaire et des catastrophes. L'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, invite toutes les parties à contribuer à la question de la fumée et de ses effets. Cela a été dit par la spécialiste des programmes de l'unité des connaissances sociales et des sciences humaines de l'UNESCO à Jakarta, Irakli Kodeli, récemment jeudi à Pekanbaru, Riau. Lors de l'ouverture du forum de l'Académie des questions de la transformation sociale de l'UNESCO ou de l'Académie MOS de l'UNESCO. Irakli a déclaré que la fumée n'était pas un petit problème qui pouvait être résolu facilement, mais une question complexe qui nécessite un effort de gestion complète. Une approche scientifique, culturelle et économique est nécessaire pour expliquer la complexité de la gestion de la fumée dans diverses régions du monde. En outre, les aspects de la science et de la culture peuvent également apporter une contribution complète au gouvernement afin qu'ils soient en mesure de déterminer les étapes pour guérir ce problème. Irakli Kodeli a déclaré qu'actuellement, la pollution par la fumée était devenue une préoccupation pour tous les pays du monde. Non seulement pour les pays vulnérables aux incendies et des forêts, mais aussi pour les autres pays souvent touchés par la pollution de la fumée. Cela a sensibilisé le public à l'importance d'une gestion sérieuse de la fumée. Selon Irakli, il existait encore une distance entre les aspects scientifiques et les processus décisionnels au niveau gouvernemental. Cela est souvent dû à des facteurs externes qui rendent la gestion de la pollution par la fumée non optimale. C'est ce dit auditif, c'était le journal aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Bandung, Java de l'Ouest. Le centre de formation professionnelle de Lembang a fait une application Smart Forming pour répondre aux défis de la numérisation de la révolution industrielle 4.0. Cette application basée sur Android peut faciliter le travail des agriculteurs, car elle utilise l'Internet des objets. Aan Subhan, responsable du centre de formation au travail de Lembang, a déclaré que l'Internet des objets sera en mesure de communiquer des objets via un réseau Internet. Cette application facilitera le travail des agriculteurs. Aan collaborera avec le gouvernement du village et créera un village pilote d'agriculture intelligente. Iwan Hermawan, instructeur du centre de formation professionnelle de Lembang, a expliqué qu'en optimisant de l'Internet des objets et en créant des applications agricoles intelligentes, les agriculteurs indonésiens peuvent contrôler leurs champs et l'aide d'un téléphone intelligent. Avec l'application Smart Farming, les agriculteurs peuvent arroser et fertiliser en appuyant sur le bouton de l'application Smart Farming sur le téléphone intelligent uniquement. Ensuite, l'info de Muntok, Bangka Belitung. Le gouvernement de la région Bangka de l'Ouest, en province des îles Bangka Belitung, a lancé un programme de bibliothèque électronique afin de susciter un intérêt accru par la lecture dans la communauté, en particulier la jeune génération de la région. Le vice-régent de Bangka Ouest, Marcus Amuntok, a déclaré jeudi que la bibliothèque électronique permettrait aux gens d'obtenir plus facilement des ressources de lecture de qualité en fonction de leurs désirs et de leurs besoins. Il a ajouté que la bibliothèque électronique lancée par le gouvernement régional par le biais du service régional des archives et des bibliothèques de la région Bangka de l'Ouest était une innovation dans la réponse aux besoins de la communauté. Les améliorations apportées à la structure des services à la communauté continueront d'être améliorées afin d'ajuster les besoins actuels dans le but d'accroître l'intérêt public pour la lecture. Selon lui, la culture de la lecture doit être continuellement améliorée car la lecture élargira les horizons et les connaissances. L'un des efforts pour réaliser la culture de la lecture est que chaque année, le gouvernement de la région organise des activités de lecture Gebiar Bangka Barat Membaca et divers concours d'alphabétisation. La dernière info vient de Kalimantan de l'Est. La collaboration en matière de recherche archéologique réalisée par le Centre national de recherche archéologique, l'Université Griffith et l'Institut technologique Bandung a révélé la plus ancienne peinture figurative du monde ayant l'âge 40 000 ans dans les montagnes karstiques Sangkulirang Mangkalihat, Kalimantan de l'Est. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse à Jakarta, que ce tableau est la plus ancienne peinture à la main du monde et montre que la civilisation indonésienne a progressé depuis l'Antiquité. La peinture figurative se compose de divers objets tels que des peintures de taureaux, des mains aux formes anthropomorphes. L'image rupestre comprend trois passes chronologiques, à savoir le plus ancien style de 40 000 ans, caractérisée par une très grande figure animale au rang rougeâtre. La deuxième phase est la pochoire à la main avec un motif en point ou en ligne qui représente l'arbre, symbole des relations familiales. L'état final de 4000 ans est caractérisé par des formes anthropomorphes, des navires et des dessins géométriques qui sont généralement exécutés en pigments noirs. Muhajir a déclaré que son parti proposerait que le tableau devienne un patrimoine mondial. Dans le même temps, le directeur du centre de recherche Arkenas, Imad Geria, a déclaré que les résultats de cette étude confirment l'opinion selon laquelle les images rupestres ne se sont pas développées en Europe seulement. Les tests ont été effectués à l'aide de la méthode de la série de l'uranium, réalisé sur des échantillons de carbonate de calcium recueillis à partir d'images de roches à Kalimantan. Les auditeurs, c'était les infos de l'Indonésie.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 10 novembre. Nous commençons avec l'inauguration officielle de Hirohito, 124e empereur japonais. Hirohito, ou connu comme l'empereur Showa, est le 124e empereur japonais. Il a été couronné empereur le 25 décembre 1926 après la mort de son père, l'empereur Taisho. Hirohito a été officiellement inauguré à Tokyo le 10 novembre 1928. Dans l'histoire du Japon, il est l'empereur le plus long de 1926 à 1989 et est l'une des figures importantes de la Seconde Guerre mondiale et de la reconstruction du Japon. La période de son règne en tant qu'empereur était connue sous le nom de Showa, synonyme de paix, de luminosité. Ironiquement, le Japon était impliqué dans une guerre contre la Chine et dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la journée des héros. La journée des héros est célébrée le 10 novembre chaque année en Indonésie pour commémorer la bataille de Surabaya qui a eu lieu le 10 novembre 1945. Les soldats et les milices indonésiens indépendantistes ont combattu les troupes britanniques et néerlandaises qui faisaient partie de la Révolution nationale indonésienne. Cette fête nationale a été fixée par décret présidentiel numéro 316 l'an 1959, le 16 décembre 1959. La suite, du 10 au 22 novembre 1963, la première Ganefo était tenue à Jakarta. Les Jeux sportifs des pays en développement, ou Ganefo, est un événement sportif fondé par le premier président de l'Indonésie, Sukarno, à la fin de 1962, comme rival de l'Olympique. Ganefo insiste sur le fait que la politique est indissociable du sport. Cela va à l'encontre de la doctrine du Comité international olympique qui distingue politique et sport. L'Indonésie a créé le Ganefo après la critique du Comité international olympique accusé politiquement aux Jeux asiatiques de 1962 car l'Indonésie n'avait pas invité Israël et Taïwan pour des raisons de sympathie envers la Chine et les pays arabes. Le Comité international olympique a protesté contre cette action car Israël et Taïwan étaient des membres officiels du Comité international olympique. Enfin, le Comité international olympique a suspendu l'adhésion de l'Indonésie et cette dernière a été suspendue des Jeux olympiques d'été de 1964 à Tokyo. C'est la première fois que le Comité international olympique a suspendu l'adhésion d'un pays. Les auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est 8 pays représentants permanents de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture étudient l'agriculture indonésienne. Les représentants permanents de 8 pays membres de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture se sont rendus dans plusieurs régions d'Indonésie du 31 octobre au 3 novembre 2018 pour étudier les systèmes agricoles en Indonésie. Dans une déclaration écrite de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ou de l'OAA, reçue à Jakarta mercredi 7 novembre, la délégation était composée d'Algérie, d'Australie, du Chili et de Jordanie, du Nigeria, de Norvège, de Thaïlande et des États-Unis. Ils se sont rendus dans deux régions, Java Central et Bali, pour constater le soutien de l'OAA aux efforts du gouvernement indonésien pour améliorer le développement agricole. Lors de la visite d'une délégation à Jakarta, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fahir, a déclaré que le gouvernement indonésien espère que les projets agricoles de l'OAA en Indonésie pourraient devenir des exemples d'autres pays. Le représentant de l'OAA en Indonésie, Stephen Radgert, a dit lors de cette visite sur le terrain, on a directement regardé la manière dont les travaux de l'OAA soutiennent le peuple indonésien, ainsi que des réunions avec les bénéficiaires et partenaires de la coopération de l'OAA. La délégation a visité Java Central pour assister à une démonstration du riz poisson ou mina padi en régence Sukoharjo, dans le cadre d'une collaboration de l'OAA avec le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et le gouvernement. Mina padi est une combinaison de l'agriculture et de la pisciculture dans une terre. À cette occasion, les participants des 8 pays ont participé à la récolte de riz et de poissons avec les agriculteurs et les régions de Sukoharjo, Wardoyo, Wijaya. Après Sukoharjo, la délégation a également visité Yogyakarta pour étudier le programme du ministère de l'Agriculture soutenu par l'OAA et à l'Agence américaine d'aide au développement pour détecter et éradiquer les épidémies de volailles menaçant également la population humaine. La délégation a visité un marché aux volailles et le centre vétérinaire de Wates, Kulon Progo. Le dernier jour, la délégation a visité le village Sibetan à Karangasem, Bali, pour étudier le projet d'agroforesterie des alakas proposé par le gouvernement en tant que système important du patrimoine agricole mondial. Le dernier jour, la délégation a visité le village Sibetan à Karangasem, Bali, pour étudier le projet d'agroforesterie des alakas proposé par le gouvernement en tant que système important du patrimoine agricole mondial ou GIAHS. Le site GIAHS proposé comprend des paysages riches en biodiversité qui ont évolué et se sont adaptés en harmonie avec les communautés de leur environnement. Les agriculteurs des alakas à Sibetan gèrent les systèmes agroforestiers en utilisant la sagesse et la philosophie locale transmise de génération en génération depuis plus de 14 siècles. Le chef de délégation, représentant permanent du Nigeria auprès de l'OAA, Dr. Yaya Adisa Olaitan Olaniran, a déclaré à la fin de sa visite qu'il a quitté l'Indonésie avec suffisamment de bons souvenirs de la coopération amenée. La délégation de l'OAA respecte hautement le gouvernement, la population et le personnel de l'OAA en Indonésie. Voilà mon Indonésie. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le Magazine Culturel, visitant la grotte Ngalau Indah en province Sumatra de l'Ouest. Restez toujours avec nous. Au service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Sumatra de l'Ouest, en plus d'être réputée pour ses délices culinaires, est également réputée pour ses paysages magnifiques. Ngalau Indah est le nom d'une grotte située sur une pente de colline située sur les pentes de colline Simarajo dans la ville Payakumbu. À l'intérieur se trouvent des stalagmites et des stalactites formés à partir d'un processus de dépôt calcaire qui a duré des centaines d'années. La spécialité de Ngalau Indah est que les touristes peuvent voir une vue panoramique de la ville Payakumbu qui se trouve sous les yeux. Avant d'entrer dans Ngalau Indah, ou précisément devant l'entrée, les touristes seront accueillis avec une grosse pierre qui ressemble à un éléphant. En entrant dans Ngalau Indah, les touristes y verront des gravures sur pierre. Les différentes formes et roches sculptées sont nommées en fonction de la forme de la pierre, telles que des chaises, des moustiquaires et des chambres. Les visiteurs qui se sentent fatigués ou qui souhaitent profiter de leur beauté plus longtemps peuvent faire une pause et s'asseoir, se détendre sur les rochers. Dans d'autres parties de Ngalau, il y a une pierre blanche qui, lorsqu'elle est exposée au faisceau de lumière, peut refléter la lumière si brillante qui est si belle. Pour visiter le site touristique Ngalau Indah situé à 4 km du centre-ville Payakumbu, Sumatra de l'Ouest, les touristes peuvent entrer par plusieurs portes. Les chemins dans la grotte ne sont pas très larges, il y a un plat et des escaliers. Il faut donc faire attention car il y a des parties glissantes et sombres de la route. Pour les touristes qui viennent ici pour la première fois, il est recommandé d'apporter une lampe de poche pour l'éclairage et doit être accompagné d'un guide touristique à Ngalau Indah. Pour atteindre cette attraction touristique, les touristes en provenance de hors Sumatra de l'Ouest peuvent passer par l'aéroport international Minangkabau. Ngalau Indah est à environ 100 km de cet aéroport. Le temps de déplacement avec des véhicules à 2 et à 4 roues est 3 heures, en passant par la ville Bukit Tinggi et en direction de la ville Payakumbu. Après être arrivé à la porte Ngalau Indah, vous devez toujours marcher ou conduire en véhicule à environ 750 mètres. Autour de Ngalau Indah, vous apprécierez le vert de vieux arbres luxuriants et habité par de beaux oiseaux qui volent d'arbre en arbre tout en chantant pour divertir les touristes de passage. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. Au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur Ulos Harungguan qui va au monde entier. Ulos Harungguan, l'héritage culturel indonésien du territoire Batak, a reçu un prix du Conseil mondial de l'artisanat, l'une des organisations non gouvernementales affiliées à l'UNESCO. Les tissus Ulos Harungguan sont exposés à Andaliman Hall, dans la ville Medan, après avoir reçu un prix du Conseil mondial de l'artisanat 2018. Environ 90 tissus Ulos sont exposés, en plus de Harungguan, dont certains sont Bintang Maratur, Suri-Suri, Indigo et Bolean. Torang Sitorus, couturier international et collectionneur d'Ulos, a déclaré que ce n'était pas la première réalisation de tissu Harungguan. Auparavant, les Ulos Harungguan étaient devenus un souvenir lors de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington DC et à Bali il y a quelque temps. Selon lui, Ulos Harungguan se distingue par le fait que ce tissu n'est fabriqué que par des tisserands de Muara en région Tapanuli Nord, Sumatra du Nord. Ce tissu est une réplique d'une vieille étoffe dont le processus est toujours fabriqué de manière traditionnelle et suit le standard qui est noué et dont le motif n'est pas répété. Les tissus sont colorés avec des ingrédients locaux que l'on trouve dans la région Toba, à savoir des racines de noni et d'acajou qui sont fermentées pour devenir colorantes. La différence entre Ulos Harungguan et les autres tissus Batak est qu'il n'y a pas de répétition des motifs dans le processus de fabrication. Selon Torang Sitorus, la fabrication d'une feuille d'Ulos Harungguan peut durer jusqu'à 2 mois. Avant le tissage, le processus consiste à former un motif à la teinture. Ulos Harungguan est donc vendu à un prix assez élevé. Une feuille de tissu à la prix à 5 à 10 millions de roupies. Après Harungguan, Torang recherchera des ulos avec d'autres motifs à développer. Torang espère également Ulos deviendra une industrie de la mode capable de stimuler l'économie des tisserands à Toba. C'était l'Indonésie en couleur. Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs des RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se rencontre avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. L'édition du magazine musical d'aujourd'hui va vous présenter des chansons de Audi. Restez avec nous à www.voinews.id, à 3325 kHz ou par l'application de RRI Play. Pour commencer notre rencontre, je vous donne la chanson intitulée « Satu Jam Saja » ou en français « Juste une heure ». Bonne écoute!
Aku tak ingin berakhir. Satu jam saja ku ingin diam berdua, mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja hingga ku rasa bahagia. segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sudah tak berarti. Itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi. Jangan berakhir, ku ingin sebentar lagi. Satu jam saja, izinkan aku merasa. Rasa itu pernah ada. Esok takkan lagi. Satu jam saja hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Sudah tak berarti. Satu jam saja, itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi.
Voilà la chanson intitulée « Satu jam saja » ou en français « Juste une heure » chantée par Audi. Comme le titre, cette chanson décrit les espoirs de quelqu'un pour être avec son amant, même si ce n'est qu'une heure, pour se souvenir de moments qui se sont passés. Chers auditeurs, Paula Alodia Itam, mieux connue sous le nom d'Audi, est la fille d'un couple de musiciens déjà seniors, Jopi Itam et Effie Akwanti Aziz. Cette chanson a été publiée pour la première fois le 16 avril 2016. Audi a commencé sa carrière dans le monde du divertissement indonésien en publiant plusieurs chansons dont le titre est « Menangis Semalam » et « Bila Saja ». La chanson a beaucoup de succès dans l'industrie de la musique indonésienne.
Terbawa dalam rasa itu memikat. Oh, tak ingin kisah jiwaku mengharapkan engkau menjadi milikku.
Chanson de genre pop sorti en 2010 dans un album intitulé Selalu Terdepan. Cette chanson parle de quelqu'un qui reçoit plus d'attention de son ami proche, pas de son amant. En outre, les paroles de la chanson suggèrent que si l'amant ne donne toujours pas son temps et son attention, il risque de perdre son amour. C'est-à-dire que l'amour doit être maintenu car le cœur peut changer. Chers auditeurs, la voix de la femme née à Jakarta n'a pas à douter. Elle a remporté un certain nombre de prix, comme le prix MTV d'Indonésie de 2013 pour la femme la plus préférée, le prix de musique indonésienne de 2013 pour la meilleure chanteuse solo pop, et la nominée pour la meilleure chanteuse solo Demi Awards 2013. Chers auditeurs, écoutons les deux chansons de Audi, intitulées « Menangis Semalam » ou en français « Pleurer la nuit dernière. Ces deux chansons terminent notre rencontre d'aujourd'hui. Bonne écoute et au revoir.
Jangan pergi saat ku datang kembali, tapi luka ini telah membeku tak mencair. Tahukah kamu I'm Kan pernah terganti. Kau ingin tinggalkan dia dan menyandingku kembali. Ini takkan adil untukku ataupun dirinya. Tahu
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Pagi, menyapa diri lewat hangatnya tatapanmu.
mencoba mengerti arti hadirmu.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Selalu
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.